C'est l'heure du LEM sur Transistor et c'est l'heure de notre rendez-vous mensuel autour du sport. Avec le LEM Sport, on met à l'honneur une communauté de supporters du Stade Brestois.
LEM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une communauté de fans particulièrement active du Stade Brestois 29. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est la page Ici c'est Brest, une page Facebook dédiée aux supporters du SB 29 qui rassemble à peu près 30 000 abonnés animés avec passion. Elle est devenue un véritable point de rendez-vous pour les fans du Stade Brestois. Et pour en parler, nous sommes avec l'un de ses animateurs. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pierre-Yves, bonjour Fred, bonjour à tous.
Bon alors pour resituer quand même, si vous écoutez Radio Évasion Transistor depuis une dizaine d'années, c'est peut-être une voix que vous allez reconnaître.
Ça rappellera peut-être des souvenirs, ouais.
Bah oui, parce que tu avais animé Soyons Sport, c'était quand? 2015, 2017, 2018
2014, 2015.
Ah oui, c'est même...
Déjà
oui.
2 ans, donc ça fait 10 ans, hein, 10 ans dans la face, ouais, ça commence à compter. Hein.
Ah oui, oulala. Et puis aussi, pour animer cette émission, on a Fred aussi qui est avec nous en studio.
Salut.
Bonjour Fred.
Salut, salut.
Alors, on va parler de la page Ici c'est Brest. Tu es administrateur, tu es l'un des administrateurs de cette page. Ici c'est Brest 2010, c'est ça le nom précis, hein?
Oui, c'est ça le nom précis. Et donc c'est une page qui rassemble les supporters du Stade Brestois 29, qui a été créée en 2010, donc par des supporters vraiment acharnés. Il y avait un petit cercle de supporters, je pense à Jérôme, à Alain et à Johan, donc qui ont créé cette page-là suite à la montée en Ligue 1, donc la saison 2009-2010. Et donc à ce moment-là, le Stade Brestois n'était pas vraiment très actif sur les réseaux sociaux. Et donc, on en a un petit peu profité pour lancer cette page. Et puis maintenant, elle réunit près de 30 000 membres. Oui.
Ouais, 30 000 membres. De 2010 à 2024, il s'en est passé des trucs du côté du Stade Brestois. Avant de rentrer dans l'actualité et puis l'histoire de la page, tu peux nous raconter son objectif principal?
L'objectif, en fait, c'est de faire suivre l'actualité aux supporters. C'est de les mettre en relation aussi entre eux et puis créer une petite... des petites réactions, voilà, essayer de donner une petite dynamique sur les différents résultats du Stade Brestois, voilà. Donc c'est ça peut remplacer un petit peu un forum. Avant il y avait le forum Allez Brest, bon, il existe encore d'ailleurs, hein. Voilà, donc là on s'est mis un peu à la page des réseaux sociaux et le but, voilà, c'est de créer un point de rencontre entre les différents supporters du Stade Brestois.
Alors qui s'occupe de cette page? Est-ce que tu peux nous faire un peu une présentation des intervenants?
Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, il y a le créateur Jérôme qui a créé la page en 2010. Ensuite, il y a Alain qui est vraiment une encyclopédie du foot, qui suit le Stade Brestois depuis le Brest Armorique, qui apporte vraiment beaucoup de choses à la page. Il y a Johan aussi qui a écrit un bouquin sur la carrière de Drago Vabek et notamment son passage. D'ailleurs, on l'avait reçu à l'époque sur Radio Évasion, donc ça fait un
oui,
petit moment.
Oui, il y a toujours l'affiche dans les locaux de Transistor.
Exactement. Moi, je suis arrivé un petit peu plus tard. C'était au moment où je commençais à écrire des articles sur le Stade Brestois. C'était le moment aussi où j'intervenais sur Radio Évasion. Donc voilà. Et puis petit à petit, il y a d'autres membres qui se sont greffés. Je pense notamment à Kevin qui nous fait des petites rétrospectives sur le Stade Brestois. Et on a Amélie aussi qui est donc graphiste et qui nous fait des visuels. Puis je pense aussi à Rachel qui anime un groupe en parallèle d'Ici c'est Brest, toujours sur Facebook.
Oui, moi je me demandais, Nicolas, aussi, quels sont les liens que vous entretenez avec le club et les dirigeants ou les joueurs au cours de la saison?
Alors, c'est plutôt compliqué puisqu'on n'est pas une page officielle, hein, on est une communauté de supporters, donc on ne peut pas se revendiquer journaliste. On a déjà été reçu par le Stade Brestois, on avait eu l'occasion de visiter un petit peu le centre de formation notamment. Donc, on est entre guillemets approuvé, toléré. Par contre, on ne va pas aller sur les plates-bandes des journalistes professionnels. On va plutôt essayer de faire des interviews, soit de supporters, soit d'anciens joueurs ou de consultants et journalistes. Voilà, donc on va pas essayer de marcher sur les plates-bandes des journalistes type Ouest France, France Bleu ou Le Télégramme.
Ouais, pour autant, ça vous a pas empêché au cours des 14 dernières années de peut-être décrocher certaines infos, certains scoops, non?
Oui, alors c'est de plus en plus compliqué d'avoir des infos. D'ailleurs, je tiens à féliciter le travail fait par le podcast, donc ils font la promotion de leur podcast sur Twitter, de Brest On Air. Ils ont sorti de très très bonnes infos cet été, notamment concernant le mercato. Donc eux, vraiment là, cette année, c'est eux qui ont été les rois du mercato. Ils ont eu beaucoup plus d'infos que les médias traditionnels comme le Télégramme, France Bleu et Ouest France. Donc eux, pour le coup, ils ont un sacré réseau, ils ont de très bonnes informations. Voilà, donc ils font aussi un très bon podcast sans prétention, mais qui marche très bien. Donc voilà, je voulais passer aussi un petit clin d'œil à Brest On Air. Et puis nous, on essaye de produire un petit peu de contenu, de relayer les articles en lien avec le Stade Brestois. Des fois, on pousse des petits coups de gueule, on écrit des tribunes, voilà, pour faire passer nos messages et pour le partager à la communauté.
Qu'est-ce qui fait, selon toi, le succès d'Ici c'est Brest ? Comment expliquez-vous que, ben, après 12 années, quand même, vous avez presque 30 000 abonnés, 30 000 personnes à vous suivre ?
Bah, c'est vrai que cette montée en Ligue 1 en 2010, elle a fait du bien. Donc forcément, comme il n'y avait pas de page officielle du côté du Stade Brestois, on a vite gagné des abonnés et on a réussi finalement à les fidéliser. C'est marrant parce qu'on s'était fixé un objectif, c'était de remplir le stade Francis Leblay, donc environ 15 000 personnes. Donc là, on est quasiment au double.
C'est ça, ça fait deux Francis, là.
Ouais, ça fait deux Francis, mine de rien. On ne s'attendait pas à autant de ferveur. Et puis ce qui nous intéressait aussi, c'était les commentaires, parce qu'il y avait beaucoup de gens actifs dans les commentaires, donc il y avait des débats des fois un petit peu houleux, fallait faire un peu de modération, mais c'est vrai que les gens aiment bien donner leur avis sur le Stade Brestois, et je pense que c'est ça qui plaît à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux.
Et comme tu le disais, la communauté des supporters est souvent active et très réactive. Comment vous gérez les interactions sur la page ?
Bah, en fait, on a tendance tout simplement à bannir tout ce qui est insultes, discrimination, incitation à la haine, etc. Il n'y en a pas trop. On a eu quelques soucis avec la légende Youssef Belaïli qui est arrivé il y a 2-3 ans à Brest.
Et donc, là, va falloir contextualiser un petit peu, Nicolas.
Oui, alors c'était un joueur qui est très très connu en Algérie, mais qui a eu des problèmes extrasportifs, donc ça n'a pas vraiment marché à Brest, et en fait on a eu...
Oh, ça a un peu marché, quoi, 2-3 mois, quoi.
Oui, il a marqué quelques buts, il a quand même plus de frasques extrasportives que sur le terrain. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça risquerait d'être un petit peu sale, mais il y a toute une communauté en Algérie donc, qui est venue nous suivre. C'est impressionnant les chiffres, hein. C'est pareil pour toutes les pages sur le Stade Brestois. La page officielle, elle est passée, je crois, à plus d'un million, donc je ne sais pas, il doit y avoir peut-être 200 000 Algériens qui ont rejoint la page officielle du Stade Brestois. Donc c'était complètement dingue. Évidemment, ils étaient complètement chauvins. On ne pouvait pas critiquer ne serait-ce qu'un petit peu les performances de Belaïli, parce qu'après, il y avait toute une armée de... C'était quasiment des bots, hein, finalement, qui venaient commenter. Donc là, on a dû faire pas mal de modération. Voilà. Mais là, en ce moment, ça se passe bien. Il y a la Ligue des Champions, les résultats sont plutôt bons. Donc tout roule de ce côté-là. Ça ne fait pas beaucoup de boulot au niveau de la modération.
Et vous avez établi des partenariats avec d'autres clubs de supporters ou des organisations quelconques ?
Oui. Alors, on est toujours en contact avec le forum allez-brest.com. Ils ont aussi une page Facebook, mais elle est un peu moins active. J'ai cité tout à l'heure Brest On Air aussi, qui est un très bon podcast sur le Stade Brestois. D'ailleurs, qui fait un travail journalistique vraiment de qualité, hein, pour des gens qui ne sont pas professionnels. Donc, vraiment, je les félicite par rapport à ça. Ensuite, on travaille avec Amélie Maguer, qui est notre graphiste. Et puis, on travaille aussi avec un nouveau site internet qui s'appelle La Marée Rouge, qui est tenu par le journaliste Martial Guarnisson, et en fait c'est un site internet dédié au Stade Brestois. Donc là, vous avez vraiment toutes les infos, vous avez des articles assez conséquents qui sont très intéressants. Donc voilà le genre de partenariat qu'on peut avoir et qu'on relaie sur la page Ici c'est Brest.
Il y a des événements physiques ou des rencontres qui sont organisées entre membres de la communauté Ici c'est Brest?
Oui. Alors c'est très fréquent. Bon, évidemment, le point de rendez-vous, c'est toujours le penalty. Hein, donc aux avant-matchs, vous pouvez nous retrouver. Les après-matchs aussi. Hein, la troisième mi-temps, c'est important. Et on croise toujours des gens qui nous suivent. Hein, la page, il suffit de dire Ici c'est Brest, ça parle vraiment aux gens. Donc on essaye de se réunir. On avait pensé à un moment donné créer une association. Mais bon, administrativement, c'est un petit peu compliqué. Donc on a gardé la page Facebook. Mais oui, effectivement, on croise vraiment beaucoup de gens. Moi, par exemple, je sais que je suis prof. Il m'est arrivé de voir des élèves qui connaissaient la page. Ou à un moment donné, j'étais aussi avec la cousine de Valentin Henry, donc ex-joueur, dans l'avion. Et elle suivait la page Facebook Ici c'est Brest. Donc j'étais dans l'avion pour le Mexique et je voyais qu'elle était en train de consulter les news sur le Stade Brestois. Donc voilà, c'est assez marrant. Et on est suivi aussi un petit peu à l'étranger.
Ouais, bah justement, t'en parlais, là, quel rôle joue dans cette page dans la vie des supporters au quotidien? Est-ce que c'est plus un simple relais d'infos ou vous y mettez quand même votre patte avec une certaine ligne éditoriale?
Oui, bon, on essaye quand même de mettre un petit peu notre patte. Alors, c'est sûr qu'on relaie principalement l'actualité. Donc, ça sert vraiment de fil d'info pour les supporters. Mais on essaye d'avoir des petites interviews, notamment d'anciens joueurs, d'avoir des regards un petit peu extérieurs aussi sur les matchs. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaye d'apporter. Alors, la ligne éditoriale, forcément, c'est de supporter le Stade Brestois, mais c'est pouvoir aussi se montrer un petit peu critique quand il faut, parce que tout ne va pas bien. J'en profite d'ailleurs pour lancer un petit coup de gueule par rapport à la gestion de la section féminine du Stade Brestois là, qui évolue en D3. Il y a quelques années, elle était en D2, ça se passait plutôt bien avec des joueuses qui ont été logées dans une maison complètement insalubre, des contrats qui n'ont pas été respectés, un entraîneur qui a dû faire jouer ses relations pour loger ses joueuses. Enfin là, c'est une gestion vraiment calamiteuse. Alors, je ne citerai pas le nom du président, mais il est en partie responsable, le président de la section féminine, donc c'est une association. Voilà, donc je profite pour essayer de mettre un petit peu aussi en lumière cette section féminine qui passe un petit peu aux oubliettes aussi, hein, puisque le Stade Brestois met beaucoup de moyens dans l'équipe masculine, beaucoup moins dans l'équipe féminine, et c'est dommage quand on voit le développement actuel du Stade Brestois, du football féminin, pardon, en ce moment.
Vous êtes toujours à l'écoute du LEM Sport sur Transistor. Alors, on va faire une petite pause avec Hugo, notre chroniqueur dans le LEM Sport, qui nous propose chaque mois sa météo. Et cette mois-ci, c'est une météo dédiée à l'équipe de France, et plus particulièrement à Antoine Griezmann.
Pierre-Yves, Fred, pour la première météo de la saison, on rend hommage à Antoine Griezmann, le leader technique et moral de l'équipe de France de football, qui a décidé de la quitter après une décennie de succès et d'émotions légendaires. Ces quelques minutes, c'est essayer tant bien que mal de saluer le parcours romanesque d'un peu plus qu'un joueur brillant et décisif ou d'un homme prêt en toutes circonstances à penser au jeu avec et sans le ballon avant le jeu JE qui le concerne lui. D'où une issue qui, si elle se confirme dans le temps, laissera une sorte de frustration nostalgique difficilement explicable pour les supporters comme pour les suiveurs. Antoine nous fait apprendre que l'abnégation et la persévérance nous permettront d'aller arracher les succès que nous pensions effleurer. Et en 2018, malgré l'apparition de Mbappé, le rôle de l'ombre indispensable de Kanté, la solidité de Varane et les arrêts de Lloris, le vrai leader dans l'âme et dans les pieds de la bande ADD, c'est Grisou. VG Dream sera ingrat en parlant seulement de pénalty, car sa science du jeu détermine le tempo des matchs. Elle fait briller les autres et enclenche les moments déterminants dans les deux surfaces. Cela va bien au-delà du fait de marquer. Il distribue autant qu'il tacle. Ses célébrations à la sauce Fortnite ou Drake, ses coupes de cheveux et son sourire fantasque font de lui l'incarnation la plus sympathique d'une équipe de foot sur le toit du monde à Moscou. Une des choses les plus inoubliables et parfois éprouvantes sur les 90 minutes de la finale d'une vie de passionné, j'en atteste. La suite fut plus contrastée. Le jeu qu'est le football change. En quelques mots, il s'uniformise. C'est la dictature du muscle au milieu, mais aussi de l'individualisme. Et les raisons pour lesquelles un centre de formation n'a pas voulu de lui il y a quelques années deviennent les mêmes raisons qui lui coûtent sa place à Barcelone et la remettent progressivement en cause en sélection. Beaucoup estiment alors que c'est déjà la fin, qu'il est trop frêle, que Mbappé ne peut pas s'associer correctement avec lui. Mais on est toujours surpris. Une hécatombe de blessures dont les forfaits d'N'Golo Kanté et de Karim Benzema remettent le Mâconnais au cœur du jeu pour le Mondial 2022 au Qatar, au sens propre comme au sens figuré. Avec Giroud et Mbappé, justement, c'est l'osmose. La désormais légende des Bleus, avec plus de 60 matchs de rang disputés, fait l'esthétique comme le sale boulot. Et il atteint l'apogée d'une carrière en termes de performance, à mesure que la compétition avance. C'est assurément le meilleur coup tactique de la vie de sélectionneur de Deschamps que de lui donner ce rôle hybride, mi-défensif, mi-créatif. C'est tout simplement incroyable. Mais la finale historique et dantesque contre l'Argentine sera un cataclysme individuel. Même si l'ensemble de ses partenaires sont à l'agonie durant 80 minutes, Antoine était perdu et brouillon. Balle au pied, incapable de donner le là, signe que l'on peut désormais qualifier d'annonciateur d'une passation de pouvoir avec celui que l'on appelait alors le génie français, triple buteur hors du commun ce soir-là. La défaite vient sonner le glas définitif. Le brassard sera ensuite pour Kiki, mais chacun a semblé minimiser le légitime et sans doute tout aussi grand égo d'un joueur comme Griezmann. Sincèrement, comment voulez-vous qu'il accepte sans conséquence de ne pas recevoir le brassard en héritage d'avoir reconnecté un peuple avec son équipe et de s'en être affirmé minute après minute comme la référence sur le terrain, surtout en comparaison avec un joueur jugé parfois clivant, en quelques mots centré sur lui-même, qu'est Mbappé. On le dit aussi froid, ce n'est pas du tout le cas de Griezmann. La gestion pitoyable du joueur de l'Atlético par Deschamps lors du dernier Euro a sans doute été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, un vase déjà bien rempli, comme le disait cette semaine le chroniqueur Walid Acherchour. Les amoureux d'un sport esthète, guidés par un certain idéalisme, ne peuvent accepter que la bromance se conclue ainsi. Alors, le capitaine et son sélectionneur devraient se rappeler d'une phrase qui était souvent martelée il y a quelques années en arrière, au début de l'ère Deschamps. Elle était martelée par les joueurs et par le staff. Et Griezmann n'a jamais dérogé à cette phrase. À tout moment, il y a pensé. Cette phrase est la suivante. L'équipe de France ne nous appartient pas, car rien ni personne n'en est au-dessus.
Et voilà, c'était la pause équipe de France avec la météo d'Hugo. Comme vous en avez l'habitude dans le LEM Sport, une fois par mois, on retrouve Hugo pour son feeling du moment qui était dédié à Antoine Griezmann. Et on retrouve notre invité, Nicolas Billan, qui est avec nous. On parlait équipe de France, mais si on parlait équipe de France sur la page Ici c'est Brest, ce serait bon signe ça?
Ce serait bon signe, ça voudrait dire que déjà il y a des Bretons, voire des Finistériens dans l'équipe de France. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc on parle très légèrement de l'équipe de France, surtout qu'en ce moment, avec ce qui se passe, c'est un peu en train d'imploser, donc c'est pas forcément très intéressant. Et puis quand on regarde les matchs, là je pense que Didier Deschamps arrive un peu en fin de cycle, donc ouais, c'est pas ultra passionnant. C'est vrai que le jeu est plus en balance du côté du Stade Brestois, en comparaison avec celui développé par... l'équipe de France, par contre, il nous arrive de regarder les matchs, notamment cet été aux Jeux Olympiques, avec Bradley Loco, qui a été médaille d'argent. Donc voilà, on essaye de suivre un petit peu les équipes de France jeunes aussi, hein, puisqu'il y a des joueurs du Stade Brestois qui sont sélectionnés, je pense au jeune Djibril Kanté, qui a fait la préparation avec le Stade Brestois aussi, et qui est dans les équipes de France jeunes. Voilà, donc on espère que un jour, on aura un Breton en équipe de France, ça fera plaisir.
Ouais, et puis il y a d'autres internationaux au Stade Brestois aussi.
Oui, il y a d'autres internationaux. Alors, c'est essentiellement des joueurs africains. Je pense à Mama Baldé. Ouais. Il me semble que Abdoulaye Ndiaye, il est pas loin d'être sélectionnable aussi.
On n'a pas la Suisse aussi?
On a la Suisse avec Eddy Milson Fernandez là qui a été prêté par Mayence. Donc effectivement, il y a quand même de l'expérience dans cette équipe-là. Et je pense que c'est un petit peu ce qui manquait les années passées au Stade Brestois.
Ouais, on parlait justement de Bradley Loco, mais qui lui est un peu sur le flanc en ce moment. Mais le club a beaucoup évolué sportivement depuis la montée de la Ligue en Ligue 1 et puis maintenant Champions League. Alors comment est-ce que vous avez accompagné ça et puis comment vous sentez l'avenir pour l'équipe cette année?
Ah bah, la saison l'année dernière, elle a été vraiment historique. C'était passionnant à suivre. Il y a eu vraiment beaucoup de rebondissements. Je pense par exemple au match contre Rennes, là, le fameux 5-4. C'était vraiment à couper le souffle. Hein. Il ne fallait pas être cardiaque ce jour-là. Et c'est vrai que oui, c'est un boom. Enfin, c'est vraiment une mise en lumière pour le Stade Brestois d'être en Ligue des Champions. Quand on voit les clubs à côté, le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich, etc. Vraiment, il aurait fallu être un très très bon parieur pour penser à Brest en Ligue des Champions. Et puis là, c'est intéressant ce nouveau format aussi avec les 8 rencontres. On voit que Brest déjà s'est bien débrouillé et puis ça fait 2 victoires et surtout ça fait 2,1 millions d'euros dans les caisses du Stade Brestois à chaque victoire. Donc ça, c'est bien pour pérenniser le club. Je pense que le club a de belles années à venir aussi devant lui, même si on rappelle que quand même en Ligue 1, l'objectif principal, ça va être le maintien. Hein. Je m'attends pas à avoir un Brest dans le top 5 tous les ans.
Ouais, alors on parlait de l'équipe de France là il y a quelques instants, qui blase un peu les gens quand même, faut être honnête quoi. Et à côté de ça, on a un Stade Brestois qui fait rêver, je pense qu'il faut le dire aussi quoi. Deuxième de Ligue des Champions après deux journées, je pense que même dans nos rêves les plus fous, on n'aurait jamais imaginé ça. Et bizarrement, paradoxalement, je trouve pas que ça fasse plus la une que ça en national. Il y a pas ce petit côté petit pousset qui pourrait faire causer encore un peu plus. C'est un sentiment. Tu ressens la même chose?
Oui. Alors le problème, c'est que le Brest est un petit peu éclipsé par les mauvaises performances du PSG en Ligue des Champions. Donc forcément, on va plutôt s'attarder sur le PSG qui n'a pas gagné ou qui a perdu. Donc effectivement, je pense qu'on a quand même bien parlé de la première victoire en Ligue des Champions contre le Sturm Graz, hein, le champion d'Autriche. Là, je pense que c'était quand même historique, donc on en a bien parlé. Par contre, c'est vrai que le 4-0 contre Salzbourg, Les pauvres Autrichiens, là, ils ont vraiment pas de chance. Le 4-0 contre Salzbourg, il est passé un peu inaperçu. C'est vrai qu'on n'en a pas tant que ça parlé. Et pourtant, aller battre Salzbourg 4-0, c'est quand même assez impressionnant. Surtout par rapport au début de match.
Ouais. Bon, après, le Sturm Graz, on a collé 5 à Salzbourg.
Oui, c'est sûr. Ça veut dire que le championnat autrichien est quand même assez faible. Et que,
est à la portée
Salzbourg,
de Brest.
Ça ne marche pas cette année.
Le stade brestois pourrait être champion d'Autriche.
Ah bah sans problème, là je pense qu'ils finissent premier sans hésitation. Ouais.
Alors on parlait Ligue des Champions, évidemment, les supporters d'ici c'est Brest, c'est quoi leurs attentes en Ligue des Champions? Est-ce qu'on rêve un peu?
Bon, évidemment qu'on rêve, hein, puisque quand on commence la campagne avec deux victoires, on peut éventuellement penser à être qualifié dans les 8 premiers, on peut aussi penser à être barragiste, donc ça fera des matchs...
Je pense que ça c'est l'option raisonnable.
Oui, je pense que c'est l'option régionale. Il faudrait essayer d'avoir encore 3 points et ça devrait passer. Donc là, le mercredi, il me semble, 23 octobre, on va avoir le Bayer Leverkusen. Là, c'est quand même une grosse équipe.
Champion
mais
d'Allemagne.
Le tirage au sort est un peu une chance pour Brest parce qu'en fait, on monte crescendo. Hein, ça va crescendo. On commence un peu doucement par le Sturm Graz. Après, on a une équipe un peu intermédiaire avec Salzbourg. Et puis après, là, on enchaîne vraiment les super équipes. Quoi. Donc, c'est une chance d'avoir commencé par ces deux équipes-là. Après, on n'a pas forcément d'attente en Ligue des Champions. On ne peut pas exiger du Stade Brestois d'aller chercher une demi-finale cette année. Par contre, le premier but, il était historique. Le premier but encaissé, il était historique. La première victoire, elle est historique. Donc, tout est historique. Bon, c'est un peu dommage que ça se passe à Guingamp, mais c'est quand même bien qu'on puisse être reçu à Guingamp à 1h10 de Brest.
Alors, tu étais à Guingamp? Tu peux nous raconter?
Oui. Ouais, bah c'était très bien, à part l'organisation pour accéder aux tribunes, parce que sur les billets, il n'y a pas les portes d'accès, donc c'était un petit peu compliqué. Moi, j'ai dû faire le tour du stade pour rentrer, et finalement, je me suis retrouvé quasiment dans le parkage visiteur, puisqu'ils n'ont pas voulu prêter leur tribune là où ils font l'animation, les Guingampais, bon, ce qui peut se comprendre aussi en raison de la rivalité avec Guingamp et Brest. Mais non, c'était vraiment un très bon match. Alors effectivement, monte de niveau, le jeu est plutôt assez emballant, et puis j'étais assez impressionné par l'ambiance aussi, parce que finalement, on a emmené un petit peu quasiment la totalité du stade Francis Leblay au Roudourou, donc il y avait vraiment une bonne ambiance, et je peux vous dire que le lendemain, quand Guingamp a joué, le stade était vraiment vide.
Alors, tu peux nous raconter un petit peu comment t'as vécu ce moment de l'hymne de la Ligue des Champions?
Ah bah, je l'écoute très souvent, ce morceau-là. Déjà, la télé, ça met les frissons. Alors, le petit bémol, c'est que la sono n'était pas terrible. On l'a entendu, mais vraiment...
Ah, le Brestois qui ne peut pas s'empêcher quand même de lâcher des taquets.
Ah oui, il faut toujours avoir un petit esprit critique quand même. Mais c'est vrai qu'au niveau de la sono, c'était faible. Donc, on a entendu l'hymne de la Ligue des Champions. Donc, forcément, ça met les frissons. La petite larme à l'œil aussi de voir son équipe jouer en Ligue des Champions. Donc, grosse émotion. Et puis, à la fin de l'hymne, quand ils disent the Champions, tout le stade a crié. Et franchement...
Ouais, à la Napoli. C'était un peu à la napolitaine, là.
Ouais, complètement. C'était vraiment... ça, c'est des sensations excellentes. Hein. Moi, je peux vous dire que voir le Stade Brestois en Ligue des Champions, c'est complètement différent que d'aller, par exemple, à Madrid voir un match contre Malmö. Voilà, l'émotion n'est pas la même.
Moi, je me posais la question, justement, si parce qu'on sait qu'on doit aller au Roudourou pour aller jouer à la Champions League, et ça fait, moi, ça me fait doucement sourire d'imaginer qu'Mbappé et ses collègues vont venir... voilà, dans la tempête et souvent la pluie à Guingamp, ça leur fera bizarre, mais est-ce que le club du Stade Brestois ne souffre pas aussi de ne pas avoir un stade et que là on se prive pas d'avoir un outil, et est-ce que votre communauté s'est positionnée un petit peu sur le fait de rester à Leblay ou de bouger un peu en périphérie de la ville?
Ah bah, de toute façon, jouer à Leblay, c'était impossible. Hein, quand on regarde toutes les normes exigées par l'UEFA, avec les tribunes qui ne sont pas en béton, donc des tubulaires, c'était vraiment impossible. Ils ont tenté le tout pour le tout au niveau du Stade Brestois, mais non, c'était pas réalisable de jouer à Francis Leblay. Après, en parallèle, évidemment, on attend tous le nouveau stade, hein, puisque le stade Francis Leblay, c'est vrai qu'il est sympa parce qu'il est en centre-ville, il y a une belle ambiance. Bon, il y a 4 tribunes, mais bon, c'est un peu bancal. Il commence vraiment à être très vétuste. Hein, et même là, dimanche dernier, j'étais en Foucault. Bon, niveau confort, niveau expérience, c'est pas génial, quoi.
Ne dis pas que t'as préféré le Roudourou de ce point de vue.
Ah oui, même en tant que Brestois, oui, ça me coûte pas du tout de dire que le stade du Roudourou est beaucoup mieux que celui du Stade Brest. Il n'y a pas photo là-dessus. Ouais. Il faut être objectif et il faut le dire. Ouais.
Eh bien, on a presque terminé cette rencontre avec toi, Nico. Alors, peut-être pour conclure, allez, qu'est-ce que tu espères là pour cette saison?
Ce que j'espère déjà, c'est un maintien serein, voilà. Des exploits en Ligue des Champions, alors on ne va pas être trop gourmand non plus, mais ça serait bien d'aller chercher...
Le barrage, ça ce serait chouette.
Ouais, alors on va dire aller à un nul contre le Barça ou contre le Real Madrid, pourquoi pas, hein, faut rêver. Voilà, donc maintien, exploit en Ligue des Champions, peut-être un parcours en Coupe de France aussi, ça serait sympa.
Ah, ça on connaît moins.
Voilà, et la dernière fois c'était une demi-finale contre Auxerre et ça s'est mal terminé.
Ah non, c'était pas demi, c'était un quart.
C'était un quart avec de finale, donc on s'est arrêté aux portes.
Ouais, et c'était je crois Fallette qui avait touché les poteaux, il me semble.
Ouais, c'est possible, et puis il y avait eu un gros match de Donovan Léon à l'époque.
Qui jouait du côté d'Auxerre.
Voilà, donc pourquoi pas un parcours en Coupe de France, et peut-être aussi un petit mot pour la réserve, pour les jeunes, parce que les jeunes jouent quand même la
Youth League.
Ouais, alors ça tombe au mauvais moment puisque l'équipe réserve était descendue. Donc cette année, c'est un peu compliqué quand même. Hein,
Il y a des buts.
On prend entre 4 et 5 buts, mais c'est quand même une très bonne expérience pour eux, un petit peu de visibilité, de voir un petit peu comment ça marche du côté des autres formations qui évidemment sont bien plus rodées à cet exercice-là. Donc je pense que quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de positif pour eux aussi. Donc voilà, c'est important de parler de la Youth League et de parler un petit peu de la formation.
Eh bien, merci beaucoup, Nico. On rappelle la page ici, c'est Brest, 2010, presque 30 000 abonnés. Et puis voilà, et c'est l'occasion de suivre aussi le stade brestois d'une autre manière. Voilà, avec un retour sur l'histoire du stade de temps en temps, les infos et voilà, plein de choses à retrouver sur votre page.
Exactement, on se donne rendez-vous sur la page ici, c'est Brest. Et puis, on peut aussi se donner rendez-vous directement au stade Francis Leblay.
Dans les
et
tribunes.
De manière très, très exceptionnelle au Roudourou et, je dirais même, au Lapin Rouge. Hein. On a un peu transformé le Lapin Rouge en un penalty guingampé.
Voilà, et c'est parfait. Merci beaucoup, Nico.
Merci.
Avec plaisir.